Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Saviez-vous qu'en moyenne, un recruteur va poser 50 questions à un candidat au cours d'un entretien? Cette approche méthodique vise bien entendu à explorer minutieusement les compétences, les expériences, les motivations et les personnalités des candidats pour s'assurer qu'ils correspondent bien aux exigences du poste à pourvoir. Parmi la multitude de questions posées, deux d'entre elles se démarquent par leur fréquence et leur importance. La première, parlez-moi de vous, et la seconde, pourquoi vous intéressez-vous à ce poste? Ces questions, apparemment simples, sont en réalité des outils puissants que les recruteurs utilisent pour sonder les profondeurs de votre parcours professionnel et de votre intérêt pour l'opportunité proposée. La question « parlez-moi de vous » ouvre l'entretien et sert de tremplin pour le candidat. Elle donne l'occasion de présenter un résumé engageant de son parcours en mettant en avant les expériences et les compétences les plus pertinentes par rapport au poste visé. Cette question est cruciale car elle permet au recruteur de commencer à évaluer comment les expériences passées et les compétences du candidat se rapportent à ce qui est recherché pour le poste actuel. Il est bien évident qu'en fonction du poste proposé, vous pouvez adapter votre réponse. D'autre part, la question « pourquoi vous intéressez-vous à ce poste ?» permet au recruteur de mesurer la motivation du candidat. Une réponse bien articulée révèle non seulement pourquoi le candidat veut le poste, mais aussi ce qu'il comprend de l'entreprise et de son industrie. Les meilleurs candidats montrent qu'ils ont fait leurs recherches et qu'ils sont vraiment passionnés par les possibilités offertes par le poste et l'entreprise. À l'époque où je recrutais, je dois bien vous avouer que quand un candidat me montrait qu'il ne s'était même pas renseigné sur l'entreprise, cela n'était pas vraiment un grand atout. Pour les candidats, comprendre l'importance de ces questions et s'y préparer soigneusement peut faire toute la différence entre une performance d'entretien ordinaire et une qui mène à une offre d'emploi. Il est conseillé bien sûr de préparer des réponses structurées qui non seulement répondent aux questions de manière concise et réfléchie, mais qui permettent également aux candidats de se démarquer des autres. Et puis, je profite de cet épisode pour vous donner un petit conseil. Bien souvent, les recruteurs finissent l'entretien en disant « Et vous, vous avez une question ?» Eh bien, plutôt que de tâtonner ou de poser une question bateau, vous pouvez poser ce que j'appelle la question qui tue. La voilà. Et vous, qu'est-ce qui fait que chaque matin vous êtes heureux ou heureuse de travailler dans cette entreprise? Je peux vous garantir que pour l'avoir testé un grand nombre de fois, cette question est d'une efficacité redoutable car elle montre que vous vous intéressez à la personne. Et un recruteur reste un être humain et aime beaucoup parler de lui-même de temps en temps. Alors revenons aux questions. En résumé, bien que le nombre de questions posées lors d'un entretien puisse sembler élevé, 50 je vous le rappelle, chaque question a un but précis et contribue à construire une image complète du candidat. Parlez-moi de vous et pourquoi vous intéressez-vous à ce poste sont des exemples de questions qui aident les recruteurs à évaluer rapidement l'adéquation entre le candidat et le poste proposé. Savoir répondre efficacement à ces questions est essentiel pour tout candidat sérieux cherchant à faire une impression positive et durable. Mais si je peux me permettre un dernier conseil, ne récitez pas vos réponses. Gardez votre naturel. Ça aussi, c'est important. Selon une étude intitulée Future of Work, The Great Expectation, 65% des répondants préféreraient travailler avec un robot plutôt qu'avec un mauvais manager. Oui, vous avez bien entendu, un robot. Cette étude qui a interrogé tout de même plus de 37 000 personnes dans 44 pays. Met en lumière un point crucial. La qualité du management est si importante que beaucoup préfèrent l'idée d'un manager robotique plutôt qu'un humain incompétent ou toxique surtout. Alors qu'est-ce qui pousse tant de personnes à envisager cette alternative? Tout d'abord, penchons-nous sur les défis posés par un mauvais management. Un manager inefficace ou désagréable peut entraîner une multitude de problèmes. Démotivation, stress accru, diminution de la productivité et même, le pire, des burn-out. En comparaison, un robot, bien que dépourvu d'empathie, pourrait potentiellement fournir des directives claires, cohérentes et surtout impartiales. Mais Que signifie réellement travailler avec un robot ? Évidemment, nous ne parlons pas ici de robots humanoïdes parcourant les bureaux. Nous faisons référence à l'automatisation et aux systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent gérer certaines tâches de management, comme la répartition des tâches, la surveillance des performances ou même la prise de décision basée sur des données. Les avantages potentiels sont nombreux, en fait. Un robot ne fait pas de favoritisme, il ne se fatigue pas et il ne laisse pas ses émotions influencer ses décisions. Cependant, il manque un élément clé, l'intelligence émotionnelle, bien sûr. Les bons managers sont capables de comprendre et de répondre aux besoins émotionnels de leur équipe, ce qui est essentiel pour un environnement de travail sain et motivant. Alors, est-il possible de tirer le meilleur parti des deux mondes ? Oui, et voilà quelques suggestions pour améliorer la qualité du management, qu'il soit humain ou assisté par la technologie. Tout d'abord, il faut former les managers, je le répète sans cesse, mais il faut investir dans le développement des compétences managériales, c'est crucial. Les managers doivent être formés non seulement aux compétences techniques, mais aussi aux compétences interpersonnelles. Ensuite, il faut utiliser l'intelligence artificielle. Oui, ces outils peuvent aider les managers à prendre des décisions basées sur des données concrètes et cela peut également servir à automatiser des tâches administratives, ce qui permet aux managers de gagner du temps et de se concentrer plus souvent sur les aspects humains du management. Ensuite, bien entendu, il me semble fondamental d'encourager une culture où les salariés peuvent donner leur avis sur le management. L'équipe est constituée de personnes qui sont tout de même les plus à même de dire si le management est bon ou pas. Les feedbacks réguliers permettent d'identifier et de corriger les problèmes avant qu'ils ne deviennent insurmontables. Enfin, il me semble important d'avoir un bon équilibre entre technologie et humanité. Utiliser la technologie pour améliorer l'efficacité et la précision, c'est bien, mais n'oubliez jamais l'importance de l'empathie et de la compréhension humaine dans le management. En conclusion, cette étude nous rappelle l'importance cruciale d'un bon management. Alors que la technologie offre de nouvelles opportunités pour améliorer l'efficacité, il est essentiel de ne pas perdre de vue les aspects humains qui rendent un manager vraiment exceptionnel. Et pour qu'il soit encore plus exceptionnel, utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour libérer du temps, pour pouvoir s'occuper plus souvent de son équipe, cela me semble une très bonne idée, non ? D'après une étude récente de Statista, un salarié passe en moyenne, attention, 2h et 56 minutes par jour sur ses réseaux sociaux personnels au travail. Oui, vous avez bien entendu, presque 3 heures par jour. Cela représente une part non négligeable de la journée de travail, vous me l'accorderez. Mais que faisons-nous exactement pendant ces 3 heures ? Il y a bien sûr les publications personnelles, les conversations avec des amis et la consultation des actualités. Mais il ne faut pas oublier que de plus en plus de salariés utilisent également les réseaux sociaux pour des raisons professionnelles, du networking, de la recherche d'infos, voire de la communication avec des clients et des partenaires. Alors comment pouvons-nous trouver un équilibre entre utilisation perso et pro des réseaux sociaux ? Voilà quelques conseils pour y parvenir. Le premier conseil, fixez-vous des limites. Utiliser des réseaux sociaux peut rapidement devenir une habitude difficile à contrôler, surtout si ce sont des vidéos de petits chats sur YouTube ou Insta. Essayez de définir des plages horaires spécifiques, par exemple, pour consulter vos comptes personnels, par exemple pendant vos pauses déjeuner ou en fin de journée. Le deuxième conseil, utilisez les réseaux sociaux de manière intentionnelle. Lorsque vous êtes sur LinkedIn ou sur X ou sur Insta pour des raisons pro, fixez-vous des objectifs clairs, par exemple consacrer 15 minutes à lire des articles de votre domaine ou à interagir avec des experts. Le troisième conseil qui est très important, désactivez les notifications. Les notifications sont une des principales raisons pour lesquelles nous sommes constamment attirés par nos téléphones. En les désactivant, vous réduirez les distractions et vous serez plus concentré sur vos tâches professionnelles. Vous irez sur les réseaux quand vous le déciderez. Le quatrième conseil, faites des pauses régulières. Si vous avez tendance à vous perdre dans les méandres des réseaux sociaux, fixez un minuteur pour vous rappeler de revenir à vos tâches après un certain temps. Par exemple, après 10 minutes de consultation des réseaux sociaux, retournez à votre travail. Et le cinquième et dernier conseil, prenez conscience de l'impact que la consultation de réseaux sociaux perso a sur votre productivité. Presque 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, c'est autant de temps en moins pour accomplir vos tâches professionnelles, ce pour quoi vous êtes rémunéré. Prenez le temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez mieux gérer ce temps pour être plus efficace, réduire votre stress et, qui sait, rentrer chez vous plus tôt. Pour conclure, les réseaux sociaux font désormais partie intégrante de notre vie quotidienne, y compris au travail. Je serais mal placé pour dire le contraire. Et il est important d'apprendre à les utiliser de manière intelligente et équilibrée pour maximiser notre productivité, tout en profitant de leurs avantages. Car oui, les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas le diable si on sait s'en servir. Selon une étude réalisée par ADP, 30% des salariés ont déjà fait semblant d'être malades pour éviter d'aller au travail. Et oui, presque un salarié sur trois. Feindre la maladie pour éviter le travail. C'est une pratique plus courante qu'on ne le pense. Mais pourquoi autant d'employés ressentent-ils le besoin de le faire? Et surtout, que pouvons-nous faire pour améliorer cette situation? Tout d'abord, il me semble crucial de comprendre les raisons pour lesquelles les salariés choisissent de simuler une maladie. Parmi les principales causes, on trouve le stress, la surcharge de travail, un mauvais environnement de travail ou des relations tendues avec les collègues ou le manager. Dans certains cas, les salariés peuvent simplement avoir besoin d'une pause pour se ressourcer mentalement et physiquement. Si cette pause pouvait se prendre officiellement sans gruger, eh bien, dans 100% des cas, je pense que les salariés le feraient. Alors, comment les entreprises peuvent-elles créer un environnement où les salariés ne ressentent pas le besoin de faire semblant, de mentir pour obtenir du temps libre? Les pistes sont assez simples au final. Tout d'abord, il faut promouvoir le bien-être mental et physique. Il faut encourager les salariés à prendre soin de leur santé en offrant des programmes de bien-être, des abonnements à des salles de sport ou des ateliers sur la gestion du stress. Un salarié en bonne santé est moins susceptible de ressentir le besoin de prendre des jours de congé injustifié. On ne prend pas un jour off en prétendant être malade juste pour le plaisir, ou ça, c'est vraiment très rare. Ensuite, il faut instaurer une culture de la transparence et de la confiance. Les salariés doivent se sentir à l'aise pour parler ouvertement de leurs problèmes de stress ou de surcharge de travail. Si on encourage une communication honnête et que l'on s'assure que les managers sont formés pour écouter et soutenir leurs équipes, ce chiffre devrait reculer significativement. Bien entendu, il faut que tout cela soit souple. Il faut permettre aux salariés de prendre des jours de congé pour des raisons personnelles sans avoir à justifier d'une maladie. Cela peut aider à réduire le nombre de jours de maladie simulés et à montrer que l'entreprise respecte l'équilibre travail-vie personnelle de ses salariés. Ensuite, bien sûr, il faut adapter les charges de travail. Il faut s'assurer que les tâches sont réparties de manière équitable et que personne n'est surchargé. Oui, je sais, c'est un peu mission impossible de temps à autre. Mais la règle générale ne doit pas être l'exception. Il existe des outils de gestion de projet pour suivre la charge de travail et l'ajuster si nécessaire. Un salarié qui se sent débordé est plus susceptible de chercher une échappatoire. Enfin, il faut offrir des options de travail flexibles. Que ce soit le télétravail ou les horaires flexibles, cela peut grandement contribuer à réduire le stress et améliorer le bien-être des salariés. Lorsque les salariés ont la possibilité de gérer leur emploi du temps, ils sont moins enclins, forcément, à feindre une maladie pour obtenir du temps libre. En conclusion, le fait que 30% des salariés feignent la maladie pour éviter le travail est un signal d'alarme pour les entreprises. Il est essentiel de créer un environnement de travail sain et équilibré où les salariés se sentent soutenus et respectés, en mettant en place des politiques de bien-être. En promouvant la transparence et en offrant des options de travail flexibles, les entreprises peuvent réduire cette pratique et améliorer la satisfaction et la productivité de leurs salariés. Comme souvent, la réponse se trouve dans la libération de la parole. Selon une étude réalisée par Monster, 78% des salariés pensent que dormir au travail devrait être autorisé. Oui, vous avez bien entendu, presque 8 employés sur 10. Dormir au travail, c'est un concept qui peut sembler étrange à première vue. Et pourtant, il y a de plus en plus de preuves scientifiques et d'exemples concrets qui montrent que cela pourrait avoir de nombreux bénéfices. Prenons un petit instant pour savoir pourquoi tant de salariés sont favorables à cette idée et quels pourraient être les avantages pour les entreprises. Tout d'abord, il est important de comprendre que le manque de sommeil est un problème sérieux, très sérieux. De nombreuses études montrent que le manque de sommeil peut entraîner une baisse de la productivité, une augmentation des erreurs et même des problèmes de santé à long terme comme le stress, l'anxiété, la dépression et le burn-out bien entendu. Dans ce contexte, permettre aux salariés de faire une sieste au travail pourrait être une solution efficace. Et je ne parle pas de sieste de 2 heures, non, juste 20 minutes. Alors quels sont les bénéfices potentiels de dormir au travail? Le premier avantage, c'est l'amélioration de la productivité. Une courte sieste de 15 à 30 minutes peut aider à restaurer la vigilance et à améliorer les performances cognitives. Des entreprises comme Google ou la NASA ont déjà mis en place des espaces de sieste et ont constaté des améliorations significatives dans la productivité de leurs salariés. Ensuite, cela réduit le stress. Une sieste peut aider à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Cela peut conduire à un environnement de travail plus calme et plus serein, où les salariés se sentent mieux et sont plus motivés. Ensuite, cela améliore la santé de façon globale. Dormir suffisamment est essentiel pour le bien-être physique et mental. En permettant aux salariés de faire une sieste, les entreprises montrent qu'elles se soucient de leur santé et de leur bien-être, ce qui peut améliorer la satisfaction et la fidélité des salariés. Cependant, pour que cette pratique soit efficace, il est essentiel de l'intégrer correctement dans la culture de l'entreprise. Et pour y arriver, il faut bien entendu créer des espaces de sieste dédiés. Il ne s'agit pas de faire sa sieste sur son bureau. Il faut aménager des salles calmes et confortables où les salariés peuvent se reposer sans être dérangés. Il faut s'assurer que ces espaces sont bien ventilés, sombres et équipés de chaises longues ou de matelas. Ensuite, il faut établir des règles claires. Il est important de définir des règles pour éviter les abus. Par exemple, limiter la durée des siestes à 30 minutes et s'assurer que les salariés informent leurs collègues ou managers avant de prendre une pause sieste. Enfin, il faut intégrer les siestes dans la culture de l'entreprise. Encourager les managers à donner l'exemple en faisant eux-mêmes des siestes. Parler des bénéfices du sommeil lors des réunions et intégrer cette pratique dans les politiques de bien-être de l'entreprise, ce sont, à mon sens, de bonnes pistes. En conclusion, permettre aux salariés de dormir au travail peut sembler radical, mais c'est une idée qui gagne en popularité pour de bonnes raisons. En améliorant la productivité, en réduisant le stress et en favorisant la santé globale, les siestes peuvent devenir un atout précieux pour les entreprises et leurs salariés. Bon, eh bien moi, sur ce, je vais aller faire dodo. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.